Africa 22 Sport avec Yao et Gaël sur Radioactive. C'est parti!
Bonjour, vous êtes bien dans votre émission Africa 22 Sport, la prolongation de la 12e journée, saison 10, et vous avez fait le bon choix radiophonique. Donc, si aujourd'hui, ce samedi, il y a un bel événement international qui se déroule du côté de Ousmane Dieng, notre correspondant permanent de Africa 22 Sport au Sénégal, et on a vraiment avec la priorité au direct.
Priorité au direct, ouais. Ce matin.
Ce matin, ce samedi 2 décembre, on va essayer de mettre le zoom à quelques heures de l'événement international avec Cynthia Jibidar. Est-ce que Cynthia nous écoute depuis Dakar au Sénégal?
Oui, bonsoir à tous, bonsoir.
Bonsoir Cynthia.
J'espère que vous allez bien.
On va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation depuis Dakar au Sénégal. Et on essaie d'avoir et de prendre ton pouls sportif de ce qui t'attend ce samedi. Et alors, parle-nous de ce combat-là. C'est un grand challenge que tu vas relever là-bas au Sénégal.
C'est pas un si gros challenge que ça, vu que j'ai vu pire. Donc, c'est un combat comme un autre.
D'accord. Alors, tu peux nous présenter ton adversaire en face, là, et vraiment de ce combat de ce samedi, c'est-à-dire, je fais allusion à Ndeye Diallo.
Oui, je ne la connaissais pas, c'est la première fois que je la vois. Apparemment, elle a remporté le combat qui a été fait ici l'année passée, je crois, ouais.
Donc, ce combat-là... Et... Oui, vas-y.
Pardon?
Vas-y, je t'écoute, ouais, Cynthia.
Et voilà, je ne la connaissais pas, mais bon, on verra bien demain ce que ça donnera. De toute façon, je ne suis pas venu pour perdre, même si c'est chez elle.
Ouais, exactement, parce que ce combat-là, c'est ce samedi à 18h du côté de Esplanade à la Grand Théâtre à Dakar. Alors, ce combat, c'est quand même un combat très, très important. Ce n'est pas n'importe quel combat. Ça va te permettre de faire quelques réglages avant ton combat domicile à Lomé. Je fais allusion à Lomé Fight 11e édition, non, avec ton coach Henri Jala.
Oui, mais malheureusement, je ne vais pas combattre Lomé Fight Night. Ça sera que des garçons.
D'accord. Mais celui-là, en l'occurrence, ça va te permettre aussi, je fais allusion à d'autres événements planétaires comme tu avais quelques projets là pour Los Angeles en 2028. Non, Paris, c'est un peu trop tôt, mais plutôt pour se mettre dans le format olympique, non?
Bien sûr. Tout combat est un bon entraînement et c'est aussi un palmarès de plus et une manière de... Bon. Voilà, de montrer ce que tu as fait durant tout ton entraînement, et voilà quoi.
Oui, on te surnomme là-bas la queen de la boxe togolaise, avec ce que tu véhicules à travers cette discipline-là, ça va te donner encore plus de motivation, les autres filles qui sont un peu, qui c'est à travers ce que tu fais là, tu es un signe d'espoir vis-à-vis de ta discipline, hein, Cynthia.
Oui, bien sûr, c'est l'une de mes motivations. J'aimerais beaucoup pousser d'autres filles, beaucoup de filles vers ce domaine-là. Vu que la mentalité aujourd'hui, c'est que les filles ne sont pas faites pour les sports de combat. Alors, j'aimerais beaucoup qu'elles, à travers moi, sachent que ce n'est pas un combat très violent et qu'elles peuvent arriver loin avec les sports de combat, comme j'arrive à le faire.
Voilà. Tu peux nous rappeler le titre où tu conserves au niveau de ta ceinture, là, au niveau de ta catégorie, de donner un peu plus d'informations là-dessus?
Ouais, je suis championne d'Afrique Waco Pro dans la catégorie de moins de 60 kilos. Ah, c'est-à-dire oui. 60 ou 59.
D'accord. Voilà. Et comment tu arrives à concilier la vie de maman et la vie de combattante de la boxe de moins de 60 kilos?
On ne va pas dire que c'est une chose très facile, mais quand on a la motivation, l'envie de le faire, on peut le faire. Et moi, personnellement, ma fille est... ma motivation, donc avec elle, j'arrive à aller plus loin. Et elle m'encourage aussi beaucoup. Elle aussi, elle apprend la boxe et voilà, on s'entraide un peu, on va dire.
Ah oui, j'ai eu Henri hier, ton coach Henri Jala, qui connaît l'émission Africa 22 Sport et qui est avec toi actuellement. Alors, nous parlons au Sénégal.
Oui, mais il n'est pas à côté de moi actuellement, vu que nous sommes un peu pris par les événements. on était à la conférence de presse et il devait parler avec l'organisateur. Donc, voilà.
Tu peux nous parler un peu de ce match de ce 2 décembre, là, ce samedi-là. Il va y avoir d'autres combats, sûrement dans la capitale sénégalaise, à Dakar.
Ouais, il y aura en tout 8 combats, donc 3 combats pour la ceinture, 3 combats super fights et 2 combats amateurs, je crois.
Ok. Donc pour l'événement, on a annoncé aussi en même temps filigrane, là aussi, là pour le 9 décembre, le samedi dans une semaine à Lomé au Togo, 11e édition, Lomé Fight Night, où il va y avoir l'équipe de Africa 22 Sport qui vont se mobiliser pour nous relayer ces informations, ces événements, et au niveau de la santé de ta discipline. Donc on va te laisser bien se concentrer sur à quelques heures de ce combat. Comment tu sens le combat là, Cynthia, de ce qui va t'arriver là d'ici quelques heures?
Bon, comme d'habitude, toujours confiante. Voilà. Toujours confiante et Inch'Allah, on va rentrer avec la victoire. Même si ce n'est pas avec une ceinture, la victoire sera là.
Ah, on voit bien que c'est quelque chose de pugnacité qui dégage à travers ce que tu viens d'évoquer. Ok, on te souhaite la chance parce que tant que le combat, on n'est pas monté sur le ring, rien n'est joué. Et puis une fois encore, on te dit bonne chance et puis continue à nous faire rêver et puis continue à défendre ta discipline. Radioactive te suive à travers la team Africa 22 Sport du côté de Lomé. Et puis bonjour à toute ton équipe en passant par ton président, ton coach Henri Jala.
Merci à vous aussi, Monsieur Bandera. Merci à toute l'équipe d'Africa Sport et merci à tous ceux qui nous suivent et me soutiennent de loin ou de près. Merci à vous tous et je vous promets la victoire. Merci.
Merci, Cynthia.
Oh là, oh là, il y a un petit Larsen. Non, c'est bon, il n'y a plus de Larsen. Vraiment, merci pour cette belle interview, Yao, c'est quelqu'un qui est vraiment très intéressant à voir, Cynthia. Beaucoup de résilience chez elle parce que, voilà, elle n'a pas un parcours de vie très simple et elle se démène, elle se bat.
Ah oui, à travers ces disciplines, comme elle dit, ce n'est pas un sport violent parce que quand on ne connaît pas, on ne juge pas. Et la preuve, elle est en train de véhiculer de bonnes valeurs à travers ces disciplines. Elle a essayé de se mettre sur les bons rails et là, c'est ce qui lui attend ce samedi à Dakar où elle va relever un bon challenge. On lui souhaite de la chance et ce qui va avec.
Yao, on va passer tout de suite un petit morceau, le temps de patienter. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre au téléphone qui nous attend en hommage au décès du chanteur d'époque Sean McGowan? On va passer tout de suite un petit morceau qui me tenait à cœur. Fairy Tale of New York, tout de suite avec les Pogs. Bonne matinée à tous, on se retrouve juste après. Continuez d'entendre ce morceau en toile de fond. Il est long à commencer, mais il est absolument divin. Sean McGowan n'est plus, mais il est toujours présent dans nos mémoires. Cette voix, elle est inimitable. Tout de suite, mon Yao, on va avoir une nouvelle invitée. À moins que, voilà, j'espère que si. Je ne sais pas si elle nous entend, Géraldine. Ah, elle ne nous entend pas tout à fait. Alors attendez, c'est du direct. Voilà. Est-ce que Géraldine, tu nous entends? Toujours pas? 1, 2, 3. On a du mal avec notre téléphone, Yao. Il va falloir qu'on gère ça. Voilà. Voilà.
all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night.
C'est du direct, on triche pas. Oui, tu vas nous entendre, Géraldine. Ça y est, on s'est remis tous ensemble. Yao, c'est à toi avec Géraldine Magnan qui nous écoute.
Vous êtes bien dans votre émission Africa 22 pour la prolongation de la 12e journée saison 10. On a la chance d'avoir vraiment une invitée exceptionnelle. Ça fait des années, j'arrête pas de dire, si elle peut passer dans son émission Africa 22 Sport. Enfin, elle a accepté. Comment va Géraldine Magnan?
Allô? J'entends plus personne.
comment vas-tu, Géraldine?
Oui, bonsoir, ça va?
Ah, ça fait plaisir. On a la chance d'avoir vraiment une invitée exceptionnelle. Ça fait des saisons, j'arrête pas de dire quand est-ce qu'elle va passer dans son émission Africa 22 Sport. Et finalement, elle a accepté. Je dis merci beaucoup, Géraldine Magnan.
Avec plaisir.
Géraldine, on a fait pas mal de compétitions ensemble, Trail Glazig et la Ménestrel, et là, cette fois-ci, en format l'art photographie. Et puis là, je dis tiens, je vais essayer de rester dans le parfum de la de l'édition 2023. Alors, pas nous la magie de cette course mythique au niveau régional.
Déjà, il faut le dire, Géraldine photographie les coureurs à pied. Hein, on est bien d'accord, Géraldine?
Oui, je suis photographe de sport, du sport outdoor précisément, mais en particulier effectivement le trail que je pratique moi-même. Et donc voilà, c'est la direction que j'ai pris dans la photo de sport.
Au niveau de Ménestrel déjà, en tant que traileuse, tu as fait combien de Ménestrel déjà à ton actif, Géraldine?
Oh, j'en ai bien fait au moins 3 ou 4, oui.
Ah ouais. On s'est croisés pas mal sur les trails. Alors, lorsqu'on évoque cette course un peu mythique, on peut dire même c'est la mecque du trail là dans la région. Qu'est-ce qu'elle a de particularité, les gens qui nous écoutent dans l'émission de ce samedi, ouais?
Elle a beaucoup de choses. Elle a beaucoup de choses à envier. En fait, j'y étais d'ailleurs, et c'est ce que je me faisais comme réflexion encore cette semaine, puisque je suis allée reconnaître un peu sur le parcours des nouveaux endroits où passaient les coureurs, pour un peu évoluer aussi dans la prise de photos. Il y a aussi ce travail-là qui est fait avant, et déjà rien que qu'en parlant des paysages, en fait, on se rend pas compte. On se dit mon contour, c'est fin fond de la Bretagne. Mais en fait, c'est juste magnifique sur le parcours. Quand on prend un peu le temps d'observer, vraiment, ils empruntent des passages vraiment atypiques, que ce soit dans la forêt ou enfin, il y a vraiment beaucoup de paysages différents avec les couleurs là actuellement. C'est juste magnifique.
Et même à travers la photographie, puisque tu panaches à la spécificité de ce que tu fais au niveau du sport et le trail, et puis là, en l'occurrence, le trail de nuit, de très très belles photos. J'ai vu tes cheveux d'œuvre, puisque tu le fais déjà à Glazig aussi, avec d'une bouchée aussi, et la traversée de la baie. Et là, du côté de Ménestrel, c'est quoi? C'est le nombre de courses enchaînées, c'est ça qui te donne la passion, l'engouement vers cet événement?
Tout à fait. En fait, c'est vrai que je fais une journée. Enfin, là-bas, je serai sur place à 4h30, une heure avant le départ des féminines. Et après, va s'enchaîner une journée où je serai tout le temps sur les parcours. Voilà, malgré les conditions encore annoncées demain. Mais bon, ça, on a l'habitude. Hein, on sait pourquoi on s'engage sur le Ménestrel. Ça fait partie de son charme également. Mais voilà, moi, je serai, c'est vrai, sur toutes les courses, sur tous les fronts, sur tous les parcours.
oui, et en même temps aussi, hein, tu fais d'autres engagements en dehors de la photographie à travers le sport ou le handisport, où tu es en collaboration avec David Le Mercier. On le fait un big up avec Thiago. Alors, tu peux nous parler un peu de ces actions-là aussi, parce que faire du sport, c'est bien, mais avec des actions.
J'ai eu la chance de rencontrer David Le Mercier, donc qui est coach sportif, donc Sapajou. Et David non seulement est coach sportif, mais il coach énormément d'enfants en situation de handicap. Et pour ces enfants-là, il se met beaucoup de défis en fait, bah pour un peu faire évoluer les choses, pour voilà, pour se dire que le sport c'est pas que pour ceux qui ont l'habitude d'en faire. Ces enfants-là qui sont vraiment en situation de handicap sont ravis de participer à des épreuves comme tout le monde. Et David le rend super bien en fait, et j'ai pu le suivre dans plusieurs de ces défis sportifs avec plusieurs enfants.
Ah, ça c'est très très important ce que tu viens d'évoquer, puisque hier on avait eu Ronan Jaouen aussi qui sera positionné sur le 24 km aussi, qui mène aussi des actions caritatives à travers le sport. Alors lorsqu'on évoque ça aussi, il y a l'autre côté de la course qu'on défend depuis plus de 10 ans sur l'antenne, qui s'appelle les gens de l'ombre, avec le boulot que fait le premier du trait de ministre de Claude Salmon et ses bénévoles.
Comment ?
Oui, je dis que le boulot que fait Claude Salmon, oui, avec son équipe, oui, les bénévoles, ça c'est très important,
oui,
à souligner,
oui,
non ?
Oui, bien entendu, il y a une organisation terrible derrière, mais ils sont vraiment, c'est une équipe formidable, et ils sont parés chaque année, c'est des sans faute, je trouve, à chaque fois, et c'est pour ça que d'ailleurs ça prend de l'ampleur encore chaque année, de plus en plus, c'est de toute façon l'incontournable de l'année, et c'est celui qui clôture également, oui, en général, la saison.
On lui dit vraiment big up, vraiment félicitations avec tout l'ossature du Claude Salmon, la team vraiment de l'organisation. On peut dire c'est un week-end un peu quand même singulier. Tu as le bonjour depuis la Martinique d'une certaine Anne-Lise Lequéré qu'on a eu tout à l'heure.
C'est génial. Ben oui, Anne-Lise est sur la Transmartinique, effectivement. Elle ne sera pas demain au Ménestrel. C'était pourtant une habituée également de cette course.
Je sais que tu as un calendrier de premier ministre sportif là, du côté où tu venais du vélodrome, hein, du côté de l'Oudéac là. Tu peux nous dire quelle est ta sensation?
Oui, c'était ce soir l'inauguration du vélodrome à l'Oudéac, vélodrome qui va servir pour les entraînements pour les JO 2024. Et en fait, si j'étais présente à l'inauguration, c'est parce que j'ai fait une expo photo sur des athlètes en fait de la communauté de communes de l'Oudéac qui représentaient tous les sports olympiques en fait.
Alors je précise à nos auditeurs qui ne vont pas comprendre ce qui vient de se passer, nous sommes samedi matin mais l'émission est enregistrée, ce qui fait que effectivement vendredi soir Géraldine était à ce vélodrome, et ça tombe bien puisque tout à l'heure nous aurons en deuxième partie d'émission Xavier Hamon, président de l'Oudéac Communauté, et puis également deux champions de cyclisme sur piste. Voilà, c'est juste pour pas que nos auditeurs soient perturbés. Je te redonne la parole, Géraldine. Tu peux nous dire déjà ce que toi tu as ressenti au vélodrome, qui est absolument fabuleux.
Oui, très magnifique vélodrome, assez impressionnant par sa modernité et par cette piste qui est vraiment impressionnante pour les cyclistes. Ça va être certainement un bel endroit pour s'entraîner et pour y voir de belles compétitions sportives, je pense.
Ah oui, ça nous fait énormément plaisir, puisque la France synonyme des années olympiques l'année prochaine d'ici quelques mois, et puis là c'est officiel aussi pour le jeu olympique d'hiver en 2030, là c'est vraiment en format olympique. Bon, merci beaucoup, hein. Tu passes quand tu veux, parce qu'on voulait coûte, tu n'es jamais passé physiquement.
C'est gentil, c'est vrai. Mais je te promets, oui, je vous promets, je prendrai le temps de venir jusqu'à ton studio, c'est promis.
Yao, il est très fan des shootings, hein. Il aime bien faire des shootings dans le studio, il adore.
Eh ben voilà, ce sera l'occasion.
Toutes tes copines, Prisca, Anne-Lise, Mélanie Toisoul, tous sont passés. Je veux dire, il faut qu'on essaie d'avoir Géraldine aussi, puisque la dernière fois qu'on s'était vu, c'était la corrida de Langueux où tu as fait de super belles photos. Les gens qui connaissent pas une certaine Géraldine Magnan, pour se procurer de tes belles chefs-d'œuvre artistiques à travers la photo, où est-ce qu'on peut voir tes chefs-d'œuvre?
Eh ben, comme un peu tout le monde, je suis sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et sinon j'ai mon site internet geraldinemagnan.com où j'expose quelques galeries photos, comme vitrine sur ce site.
Et les projets en 2024, t'as quelque chose en perspective? Tu seras comme de coutume du côté de Plouran à Glazig?
J'espère, c'est en cours. Enfin voilà, enfin de toute façon, si j'y serai pour le Telegram Sport, puisque j'y travaille aussi, donc je serai certainement par là-bas pour faire quelques photos.
Elle est partout. Alors, pour finaliser cela, est-ce que tu seras dans la capitale au cœur de l'événement pendant le JO ?
Non, je ne pense pas. Non, non, non. Je ne pense pas, c'est pas prévu en tout cas pour l'instant.
Merci beaucoup Géraldine Magnan qui sera merci là beaucoup au cœur de Ménestral ce samedi puisque l'émission enregistrée, mais c'est, tu seras là demain au cœur de l'événement et si on veut voir tes photos, on sait là où les procurer. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous pour votre accueil.
Merci Géraldine.
Au revoir.
Au revoir. Vous êtes bien dans votre émission, la prolongation de la 12e journée, saison 10, ce samedi 2 décembre, et ce n'est pas n'importe quelle journée, et puis on envoie la santé à notre technicien de l'émission, monsieur Gaël Manchek.
Je te remercie mon petit Yao, mais c'est surtout que là, il y a un générique qui vient de se lancer.
Ah oui. Ah, ça y est.
Salut Gaël, salut Yao.
Alors, salut John.
Alors, oui, j'avais pas mis mon micro, dis donc. Je m'étais pas allumé, mon Yao, c'est fou ça.
Justement.
Oui, parce que je travaillais sans casque, parce que je peux pas tout décrire à nos auditeurs, mais voilà, lorsqu'on a du monde par téléphone, on est obligé de faire de la gymnastique. John, pendant qu'on entend ce beau générique de générique rock, eh bien, on va t'entendre également. Ça fait bizarre d'ailleurs d'entendre John aujourd'hui. Ça va, John?
Oui, ça va très bien, ouais, en forme et comment dire, j'ai hâte d'en découdre sur ce 34 km.
Ah, ouais. ça donne envie ça.
T'es affûté, John ?
Ouais, je pense que je suis affûté. Alors, comment dire, j'ai fait le 34 km moi en 2019, donc ça remonte un petit peu. Alors, faut savoir que là, je vais le courir tout à l'heure avec mon frangin. Qui est un peu plus jeune d'un an et demi, voilà. Et puis lui, il l'a fait l'année dernière. Et donc voilà, moi je suis un habitué du 22 km qui s'est transformé ensuite en 24 km. Hein, je l'ai couru très régulièrement de 2012 à 2018. Donc je le connais vraiment par cœur. Et ça a été mon trail préféré pendant des années. Et puis à un moment donné, je me suis dit que j'allais faire autre chose. Et donc ce 34 km que j'ai fait en 2019, bah ça s'était pas forcément très bien passé parce que j'étais pas aussi affûté que cette année. Et puis voilà, c'était pas forcément une bonne période à ce moment-là pour moi, mais du coup, et puis surtout à la fin, voilà ce qui s'est passé, c'est que je me suis quand même pas trop mal débrouillé tout au long de la course, mais à la fin, je me suis perdu. Donc je me suis perdu, je me suis trompé de route alors que mon temps était pas mal, donc j'ai pris un petit coup moral, j'avoue. Donc là, je vais bien regarder les balises parce que j'ai pas envie de me perdre. Et puis bah je le fais avec quelqu'un. Mais pour répondre à ta question, ouais, je suis affûté. Maintenant, la sensation d'être affûté, c'est une chose, mais quand on est à se mesurer à 34 km, on appréhende toujours un peu les. Des fois, on a des coups de moins bien. Enfin, on peut avoir faim, froid. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe. On peut avoir des crampes. Bon, je pense qu'on s'est quand même pas trop mal préparé. Voilà.
J'ai déjà fait cette course là. Vraiment, il y a quelque chose de singularité pour cette course là. Ce n'est pas si facile que ça. Et puis, oui, c'est au-delà même de l'événement, même le côté ambiance, l'organisation. On parlait de ça tout à l'heure avec Géraldine tout à l'heure. C'est ça. Et s'il y a ce côté là qui donne envie de relever, tu peux faire autant de trails dans le coin. Mais si tu n'as pas fait un ministrel, c'est un grand puzzle qui te manque, quoi.
Alors oui, comme tu dis, c'est une course qui a une certaine singularité. On parle quand même d'un 34 km qui se court à 80% pendant la nuit. On court 30-45 minutes de jour et après on allume la loupiote. Et après, le départ c'est à 16h30. Donc voilà, c'est 80% de nuit. Et l'ambiance est surréaliste. Enfin, on est dans la forêt la plupart du temps.
C'est ça.
De nuit, il fait froid. On a l'impression d'être dans un monde parallèle. Alors c'est pas de moi, c'est d'un copain qui l'a couru. Mais je suis assez d'accord avec lui. C'est un peu un monde parallèle. C'est un peu comme si on avait des espèces de casques pour voir dans la nuit là. Et par rapport à l'ambiance que tu décris, Yao, ouais. Alors l'ambiance, moi j'aime beaucoup hein, de l'ambiance du Ménestrail. Hein, c'est vrai qu'il y a cette ambiance de Montcontour aussi. Et puis ouais, l'organisation est top. Hein, enfin, c'est un des meilleurs trails de Bretagne clairement. Et donc voilà, la singularité de la course et l'organisation du Ménestrail de manière générale font que la course a énormément de charme, énormément de charme.
Et puis c'est vallonné, et puis parcourir Montcontour, remonter cette immense côte et ces marches, c'est physique, c'est vraiment très physique.
Alors effectivement, c'est très physique. Alors faut savoir, puisque tu parles de ça, Gaël, que il y a quand même, si je me gourre pas, il y a 1000 mètres de dénivelé, donc faut quand même se les farcir. Là, on arrive, on fait des vrais murs. Et je me souviens pas beaucoup du parcours, mais je sais que sur la fin du parcours, on descend complètement. Donc on est, si vous visualisez un peu mon contour devant les remparts, on est carrément de l'autre côté de la route qui mène à. On passe par le petit pont en fait de la. Enfin, je veux dire, si on se représente le pont entre Montcontour et la route de Quessois, là, il y a une grosse butte là devant Montcontour. Et ben, on descend cette butte avec des cordes tellement c'est raide, et on descend complètement tout au fond de la rivière qui est juste à côté de la route. Et là, on la remonte, donc on est en train de remonter une rivière. Voilà, bah, on est dans l'eau, on a les pieds dans l'eau, la boue, et puis c'est assez. Là, à ce moment-là, on est sur la fin. Il reste 2-3 kilomètres, peut-être un peu plus. Mais c'est très très raide, et puis donc voilà, c'est très raide, c'est très vallonné, il y a du dénivelé, faut s'accrocher.
Et il y a quelque chose aussi qui me séduit quand j'ai fait Ménestrail aussi, c'est du comment le top départ de course cyclique, le côté un peu faux départ où tu fais le tour pour sentir un peu le terrain, et puis après tu pars officiellement, et ça le côté là aussi qui séduit, et puis le côté dans de plein c'est au-delà d'une fête de sport, mais quelque chose de particularité où toutes les actions caritatives, on évoquait tout à l'heure, plein de choses qui s'enchaînent non-stop, et tu vois pas du tout le temps passer, John.
Non, on voit pas trop le temps passer, parce que une fois qu'on est dedans, c'est comme un film de 2h30 ou de 3h qui nous plaît, c'est-à-dire que on fait plus gaffe à la durée, on se laisse couler, on se laisse embarquer, le temps passe vite, et puis bah voilà, si on est à sa place, c'est-à-dire enfin si on est bien entraîné et si on est entraîné suffisamment pour courir cette course-là, à un moment donné, même la souffrance est du plaisir, c'est-à-dire que enfin sans être maso, je veux dire voilà, ça fait partie du truc, on sait qu'on a signé pour ça, on sait qu'on a payé un dossard pour ça de souffrir. Et donc, à un moment donné, on est dans le plaisir, quoi. Je veux dire, le corps, on l'a bien entretenu pour cette course-là. Et oui, le temps passe vite, on le voit pas passer, ouais. J'irais presque jusqu'à dire que quand c'est fini, on voudrait presque que ça continue, quoi.
C'est ça, je voulais dire exactement dans ce parfum-là, ce que tu es en train d'évoquer là, John. Quelqu'un qui a l'ADN du trailer et fait le Ménestrail le premier week-end du mois de décembre, c'est comme préparer son marathon ou préparer quelque chose de, qu'il attend que ça, le premier week-end du mois de décembre où quand ils arrivent, il dit tiens, voilà, il y a tous les réglages sont au vert, donc ils attendent que le déclic, quoi.
Ouais, c'est ça, on attend le déclic, on attend le Ménestrail pour beaucoup de trailleurs comme moi. Moi, ça fait plus de 10 ans que je cours. Le Ménestrail, c'est le grand rendez-vous de l'hiver. C'est ça l'expression du Ménestrail. C'est l'une des expressions du Ménestrail. Et pour moi, ouais, c'est le grand rendez-vous. Et je dirais que le déclic dont tu parles. Je l'ai eu moi dès les premières fois où j'ai fait cette course là, mais c'était sur le 24. Et donc c'était il y a environ 8-9 ans quoi. Là ça va être un déclic sur le 34 km, ouais.
Ouais. Voilà. Je vais passer sur un secteur plus personnel, John. Ta préparation, j'imagine que tu as beaucoup couru pour être fin prêt le jour J. Est-ce que tu l'as fait en musique avec un podcast sur les oreilles ou avec un groupe? Qu'est-ce que tu écoutes le plus souvent lorsque tu cours?
Alors c'est intéressant que tu dises ça, parce que c'est vrai que j'écoute de la musique quand je cours pour me donner du courage, clairement, parce que des fois quand on fait des grosses montées. Moi, je trouve ça bien d'avoir de la musique dans les oreilles. J'ai fait pas mal de fois il y a beaucoup de fractionnés à faire en termes d'entraînement, et puis des courses courtes et puis des courses longues. Et dans les courses, moi, je vais m'entraîner en général dans la vallée de Saint-Brieuc. À ce moment-là, quand j'ai mes écouteurs sur les oreilles, en général, je vais pas écouter des choses douces, comme comme du folk ou du jazz rock ou des choses comme ça, ou des rock psyché un peu doux. Par contre, je vais écouter du hard rock et du heavy metal et du thrash metal. Donc, je peux te donner une playlist. J'ai pas mal. Je peux te donner une playlist au moins en termes de groupe, parce que je peux vous assurer que si vous écoutez ça, alors je pense vraiment que ça a son effet, hein, les groupes que je vais donner. Quand on les a dans les oreilles et quand on est en train de monter, quand on est en train de grimper sur quelque chose qui fait entre 500 et 800 mètres, on est content d'avoir ça dans les oreilles. Alors il y avait du AC/DC,
ouais, forcément.
Donc voilà, tout le monde connaît bien des albums comme Ballbreaker ou des trucs comme ça.
Ah,
Slayer avec le fameux Rain in Blood, des morceaux de Turbo Negro. Alors ça c'est pareil, c'est pied au plancher. JC Satan, je me rappelle avoir écouté pas mal de. Alors JC Satan, on est plutôt dans le stoner punk. Français, voilà. Et puis Mastodon. Après, il y a des tas d'autres trucs. Hein. Mais voilà, ça c'est une play. Ah si, il y avait pas mal de Iron Maiden aussi. Iron Maiden,
bien sûr.
Pas mal. Tous ces trucs-là, en fait, quand on les a dans les oreilles, ça donne quelque chose en plus. Moi, je trouve que ça donne quelque chose en plus. C'est pas loin d'être une forme de dopage, je trouve.
Exact. Du dopage acoustique, un petit Rage Against the Machine, ça va être sympa, ça aussi.
Alors, Rage Against, tout à fait. Alors, j'avais pas ça dans ma playlist, mais oui.
Rajoute-le vite. Écoute-moi, je veux forcément parler de l'actualité. Ton émission d'hier soir. Alors déjà, pour ceux qui l'ont raté hier soir, il y a une rediff cet après-midi. On a parlé de quoi sur Générique Rock aujourd'hui?
Alors il y a du folk avec This Is The Kit, Julie Byrne, l'album coup de cœur de la semaine, le coup de cœur de la semaine, c'est l'album de Ghost Woman qui a sorti un superbe album de garage rock psychédélique.
Excellent.
Ça s'appelle Inside Is 50-50. Alors si je me rappelle bien, il y a aussi de la pop minimaliste psyché, un peu dub, un peu électronique avec Alec Lee. Là, alors j'ai pas la playlist sous les yeux, mais je me souviens quand même. Il y a aussi du COCs, donc crowd rock et garage rock psyché, parce que leur dernier album était très très bien, COCs. Sinon, qu'est-ce que j'ai passé? Je pense. Alors j'ai dit Julie Byrne et This Is The Kid. Ah oui, si. Parce que je savais qu'il y avait une autre femme, Cat Power, donc Chad Marshall, alias Cat Power, qui a sorti un excellent double album folk live en reproduisant le live historique de Bob Dylan en 66 au Royal Albert Hall. Donc là, j'en ai diffusé un extrait, quoi. Voilà.
Écoutez, Générique Rock, John, il a une culture musicale absolument incroyable. Pour conclure, bientôt, j'imagine, une émission spéciale à rock avec, on le sait maintenant, Étienne Dao qui sera sur la scène d'Arock à la Pentecôte prochaine. Donc ça sera l'occasion de te réécouter pour présenter tous les artistes qu'on verra et dans tous les festivals. Merci beaucoup John, et tout de suite on passe à la deuxième partie avec le cyclisme sur piste. À bientôt John.
À bientôt les gars, salut.
Voilà, alors on va enchaîner tout de suite.
Oh,
ça c'est Tao, ça va être très très bon ça. On va passer tout de suite à la partie cyclisme sur piste. On l'a entendu tout à l'heure, le Vélodrome, il est absolument éblouissant. Je remercie Xavier Hamon, président de l'UDEAC Communauté Bretagne Centre, qu'on va écouter tout de suite pour une interview que j'ai collectée cette semaine. Forcément il est très très pris ce week-end. Et puis après on aura Septime le Normand Lucas, champion de France. Il est du club de Langueux-Trégueux. Et puis on aura également un champion du monde, Patrice Huby de Verne-sur-Sèche. Allez, on écoute tout ça. À tout de suite. Bonjour Xavier Hamon.
Bonjour.
Très heureux et très flatté de t'avoir aujourd'hui sur Radio Active. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mais beaucoup te connaissent dans le pays de l'Oudéac, tu es maire de la commune du Quilio, mais surtout président de l'UDEAC, communauté Bretagne, Centre-Bretagne.
L'UDEAC, communauté Bretagne-Centre.
Voilà. Pardon, excusez-moi pour ce petit cafouillage, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler avec toi de cyclisme, puisqu'il y a quelque chose de vraiment très important qui est en train de se passer sur l'UDEAC.
Tout à fait. On va inaugurer le Vélodrome de Bretagne, la piste Henri Carré-Semel, donc vendredi prochain.
Voilà, alors avec un énorme édifice qui a été construit et pour lequel, bien évidemment, l'UDEAC Communauté Bretagne Centre a été partenaire, mais pas que. C'est un énorme projet,
ça fait depuis combien de temps que ce projet est en gestation?
Ouh là là, pour être très honnête, c'est un projet qui a démarré en 2013, avec un début de réflexion avec le comité régional de Bretagne pour qu'il déplace le siège du comité régional de cyclisme à Loudéac. Et dans le prolongement, on avait également le Vélo Club 38 de Loudéac, qui était propriétaire de la piste non couverte sur notre territoire. L'engagement de reconstruire une piste qui au départ devait être non couverte et qui au fil du temps a évolué sur un vélodrome couvert, le 8e vélodrome couvert de France, en lieu et place de faire un 18e vélodrome non couvert en Bretagne. Voilà.
Donc une vraie réflexion, et j'imagine que dans cette réflexion il y avait aussi la place du cyclisme dans votre territoire. Il faut reconnaître quand même que de sacrés champions sont en train d'émerger en ce moment. Il y a une vraie raison sportive à ce projet.
Alors déjà, la Bretagne, on dit que c'est la deuxième région de France en termes de licenciés, mais avec, je dirais, la revoyure des régions, c'est vrai que ça nous facilite pas, mais la Bretagne est déjà une terre de vélo, voilà, de passionnés, de cyclistes avérés. Et puis on a la chance d'avoir sur notre territoire déjà les champions, je pense à nos ambassadeurs du Vélodrome et Paramarraine, je pense à Alexandre Léauté, champion du monde, multimédaillé paralympique, je pense aussi à Audrey Cordon-Rago, et tous nos jeunes qui sont en train d'éclore, notamment au sein du VCPL.
Voilà, du VCPL, et puis également un petit clin d'œil à Antoine Hubi, qu'on aura le plaisir de retrouver bientôt sur Radioactive avec l'équipe Soudal Quickstep. Donc, cette partie, et puis il y a également, quand on entend Loudéac Communauté, on pense bien évidemment à Guerre-les-Dents. Mur de Bretagne est devenu quand même une place incontournable désormais du Tour de France.
Oui, à plusieurs reprises, j'ai eu la chance de rencontrer le président de la CO, et c'est vrai qu'aujourd'hui, un Tour de France qui passe en Bretagne vient forcément franchir le mur de Bretagne, la côte de Ménez, qui est réputée en tant que telle. Le département des Côtes d'Armor a déjà d'ailleurs investi par le passé sur le plateau en haut de la première bosse, parce qu'il y a une seconde bosse qui peut être aussi assez difficile quand on fait le grand parcours, mais ce qui garantit un magnifique spectacle à chaque fois.
Exactement. Alors, ce vélodrome, présente-le-nous, parce que on est à la radio et on va suivre ces images. Combien de places dans le vélodrome?
Combien de places? On a 500 places assises dans les gradins et on peut mettre 1000 personnes autour de la piste. Ce qui fait que la capacité d'accueil, j'ai arrondi à 1500, mais en réalité elle est 1496 pour être très précise. On est sur un bâtiment de 7000 m², une piste de 200 mètres. Constitué de lames de bois de 4 cm de largeur. Si on cumulait l'ensemble des lames qui ont été posées manuellement, il faut le savoir, il y a eu un magnifique travail de fait, on aurait une distance qui pourrait être parcourue de 45 km de lames de bois. Donc un vélodrome magnifique que j'invite tout le monde à découvrir. D'ailleurs, il y aura des portes ouvertes samedi 2 et dimanche 3. Et derrière, voilà un équipement qui se veut à la fois axé sur le vélo, sur la piste. Sur la partie aire centrale, il y a 1800 m² qui peuvent être aussi du savoir rouler à vélo, du sport santé, avec je dirais des vélos d'appartement, et puis cette partie centrale qui peut aussi servir à d'autres activités que le vélo. Et on a 6 terrains de badminton en marquage sol, on a un terrain de basket, un terrain de hand, ça peut être demain une compétition de judo, ça peut être demain un tournoi ou une compétition régionale de billard. Donc vous voyez, on peut faire un ensemble de panels d'activités. Et pour là, j'ai parlé que de sportifs, mais qui peut aussi être culturel. Et voilà, voir de l'entrepreneuriat avec des assemblées générales. Nous, on va organiser un forum de l'emploi, un salon de l'habitat. Donc, beaucoup d'activités possibles au sein de cet équipement.
Alors, ce projet donc est porté, bien sûr, par l'Oudéac Communauté Bretagne Centre, mais aussi par le département, par la région, et puis par la Fédération Française de Cyclisme. On a vu également que le siège donc du Comité de Bretagne allait désormais être à l'Oudéac. Et puis, il y a également le Pôle Espoir.
Alors, le siège du Comité Régional, il est déjà à l'Oudéac depuis 2015. Voilà. Donc ils se sont déjà déplacés, donc il y a eu un gros travail de fait, vous l'avez dit, État, région, département, ville de Loudéac. Et pour faire simple, le comité régional de cyclisme gère toutes les activités en lien avec le vélo au sein de l'équipement, et Loudéac Communauté gère, on va dire, toute la partie culturel et sport autre vélo. Et on a la chance, faut le dire, hein, grâce, je dirais, au combat de femmes et d'hommes, d'avoir pu ouvrir un pôle espoir en septembre dernier avec 12 jeunes qui ont démarré et qui, je l'espère, seront les champions de demain.
Voilà. Donc c'est un projet, bien évidemment, qui s'oriente vers la jeunesse, à la fois du pays de l'Oudéac et puis de l'ensemble du territoire breton. Oui, je vous laisse...
Non, oui, l'ensemble du territoire breton. Sur les 12 jeunes, on avait 11 bretons et une jeune fille championne de France qui venait de région parisienne.
Voilà, et évidemment, le cyclisme, c'est un sport mixte et on aura, comme on l'a dit tout à l'heure avec Audrey Cordon-Rago, il y a tout un ensemble de choses qui se font sur le cyclisme masculin et féminin qui se passeront à l'Oudéac. Alors, ce qui se passera à l'Oudéac, bien évidemment, ce sont des belles festivités ce week-end, notamment avec la présence de David Lapartien, président de l'UCI.
Oui, on a l'honneur d'avoir David Lapartien, président de l'UCI, président du comité olympique aussi, des Jeux olympiques, puisque le Vélodrome, faut le savoir, fait partie des cinq vélodromes couverts de France, retenus au titre des centres d'entraînement pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on est en train de travailler sur l'accueil d'équipes nationales dans les mois à venir.
Voilà, ça c'est.
Donc c'est un vrai plaisir d'accueillir David Lapartien, en tout cas, c'est un bel honneur. Ouais.
Une excellente nouvelle. Et puis également Michel Callot, hein, le président de la Fédération française, qui devrait être présent. C'est vraiment l'ensemble du cyclisme français qui aura les yeux tournés vers l'Oudéac.
Tout à fait, il va y avoir un certain nombre de partenaires et vraiment le braquet va être en direction de l'Oudéac, je dirais, ce week-end, avec en plus le comité régional qui organise sa première course. Officiel, un petit peu de lancement samedi soir. Donc ils vont accueillir à peu près 1500 personnes, je crois qu'il y avait un peu plus de 1000 personnes inscrites, avec la région Aquitaine, la région Bretagne, la région Île-de-France. Voilà, il y a eu un gros travail de fait par Didier Marchand, président du comité régional.
Voilà, et puis on n'oublie pas, bien évidemment, on a cité des jeunes cyclistes tout à l'heure, je n'oublie bien évidemment pas Kylian Verschuren, qui a fait retentir la Marseillaise cette année avec le maillot du VCP l'Oudéac sur les épaules, donc c'était forcément à rappeler aussi. Merci beaucoup Xavier Hamon d'être présent aujourd'hui avec nous sur Radioactive, et puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce Vélodrome, à avoir un championnat de France peut-être à l'avenir ?
Recevoir un championnat de France, un départ du Tour de Bretagne cycliste, d'avoir le plaisir dans quelques années de se dire tel jeune est passé par le pôle espoir du Vélodrome de Bretagne, il est devenu champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Voilà, il aura fait retentir, comme vous l'avez dit, la Marseillaise. Voilà, que cet équipement vive et qu'il permette à des jeunes de vivre leurs rêves, de pouvoir s'épanouir au sein du vélo et qu'on ait des futurs champions en Bretagne et en France.
Un petit mot juste pour finir, je suis vraiment très honoré d'avoir le président de l'Oudéac Communauté Bretagne Centre sur Radioactive. Voilà, bravo pour l'ensemble des collectivités qui font avancer. Sans les collectivités, il faut le rappeler quand même, les équipements ne pourraient pas sortir de terre. Et puis le sport a besoin d'être accompagné, notamment le sport santé, vous l'avez rappelé, je crois que c'est un des objectifs aussi de cet équipement.
Tout à fait, il y a le sport santé, il y a un gros travail de fait, et on a aussi le savoir rouler à vélo, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est aussi l'éducation auprès de nos jeunes pour les préparer un petit peu à la sécurité sur la route. Donc on a à la fois de l'éducation auprès des plus jeunes et du sport santé. Voilà, je crois qu'on touche à toutes les générations, à toutes les activités qu'on peut réaliser.
Ah, c'est un projet rondement mené, bravo à vous Xavier Hamon, et on se dit à très vite, et puis beau week-end sur le Vélodrome de Bretagne à l'Oudéac.
Merci, au plaisir de vous y accueillir. À bientôt.
Merci.
Après le Vélodrome de Bretagne, on est obligé de passer un titre breton, bien évidemment, avec Étienne Dao qui sera à l'affiche du prochain Hard Rock. Voilà. Dao, c'est bien sûr la Bretagne. Allez, on va rester dans le parfum du cyclisme sur piste et vous allez comprendre que ce vélodrome qui va arriver, il a une importance terrible pour les sportifs et bien sûr les cyclistes. Parce que, voilà, Il y a beaucoup de cyclistes qui ont eu la formation sur une piste, ou alors en cyclocross aussi pour certains, mais la piste a beaucoup compté, notamment pour un certain Bernard Hinault, hein, qui s'est formé sur le vélodrome de Saint-Brieuc, et puis quand même, dans sa carrière, il a été recordman du monde de l'heure. Donc c'est voilà, il y a plein de disciplines différentes sur la piste, et voilà, c'est important pour tous les cyclistes. Donc tout de suite, Septime le Normand Lucas, voilà, vous allez le découvrir, c'est un gamin dont on reparlera, c'est moi qui vous le dis.
Bonjour Septime le Normand Lucas.
Bonjour.
Bienvenue sur Radioactive Septime, et félicitations pour ton titre de champion de France, titre que tu as obtenu début juillet, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, quels sont les souvenirs que tu peux avoir et la fierté de porter ce maillot tricolore ?
Bah, de très bons souvenirs de cette semaine, surtout que l'année dernière, j'avais fait une place de 2 et une place de 3, je crois, à France, donc j'avais pas réussi à avoir le maillot. Et cette année, j'avais commencé avec une médaille d'argent. Et après, j'ai eu le maillot. Donc là, ça a complètement libéré. Et après, les 2 jours d'après, j'ai réussi à avoir 2 médailles d'argent. Donc vraiment une très bonne semaine.
Une très belle moisson. Alors, tu avais déjà été titré en niveau Bretagne et Côte d'Armor. Tu commences à les collectionner, les médailles, là ?
Ouais, là, c'est vrai que ça commence à rentrer dans le placard. Ça commence à être pas mal.
Bon, et puis au travers de ta performance, c'est aussi ton club, du vélo club Trégueux-Langueux, qu'il faut saluer. Ça fait depuis combien de temps que tu es au club du VCTL ?
Je dirais que ça doit faire à peu près 5-6 ans, oui, jusqu'à Trégueux.
Bon, oui. Très bien. Et puis, bien sûr, une évolution qui va se faire au fil des années. On est très fiers, en tout cas, de ta réussite. Et on te suivra sur Radioactive. Quels sont tes prochains objectifs, Septime ?
Bah là, mon prochain objectif, c'est les championnats de France élite qui se déroulent à 50 ans en Yvelines en début janvier. Et après, c'est essayer de gérer l'école avec les courses que je vais pouvoir faire avec l'équipe La Crêpe de Brocéliande. Donc voilà.
Donc pour rappel, hein, tu fais tes études en Normandie, ce qui ne rend pas les choses faciles pour s'entraîner. Mais pourtant, il faut bosser très très fort pour le cyclisme sur piste.
Ouais, c'est ça. Je vais surtout m'entraîner sur route, à part pendant les vacances où, vu que j'habite pas loin du vélodrome, je vais pouvoir aller faire des tours de vélodrome à l'Oudéac. Mais sinon, ouais, c'est vrai que l'entraînement va être priorisé sur la route.
Bon, voilà. Cette arrivée du vélodrome de l'Oudéac, pour toi, ça va quand même changer la vie.
Ah bah ouais, c'est vraiment un super outil, hein, surtout que voilà, j'ai déjà eu l'occasion d'aller rouler dessus. Et franchement, quand il pleut dehors, on peut se mettre au chaud au vélodrome et pouvoir rouler. Donc ouais, c'est vraiment un super outil.
Bon, très bien. Et puis un outil que tu seras dans le vélodrome ce week-end, puisque voilà, il y a une juste avant cette belle soirée, hein, et puis cette porte ouverte, tu tiendras un rôle.
Ouais, c'est ça. J'ai été invité par le comité pour faire une simulation d'épreuve pour former les prochains arbitres nationaux. Donc ouais, ça va être cool.
Ouais, important là aussi de saluer le travail des juges on a besoin de ces personnes forcément pour organiser de belles manifestations. Donc la journée, il y aura des épreuves U19, mais pour ta part, tu passes en catégorie espoir, c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça. Du coup, je peux pas participer à l'épreuve d'inauguration, mais je serai là-bas dans les tribunes pour regarder les copains.
Voilà, et puis forcément, on aura tous en tête ce maillot tricolore que tu as remporté. Ça doit faire tout drôle d'entendre la Marseillaise quand même.
Ouais, c'est vrai que c'était vraiment un truc de ouf. Surtout que c'était une épreuve par équipe. Donc toute la sélection bretonne a chanté la Marseillaise dans le vélodrome. Donc ouais, c'était pas mal. En plus, il y avait la famille là-bas. C'était vraiment un super moment.
Ouais, il faut saluer le travail de ton papa, hein, qui est souvent près de toi, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ça a été mon entraîneur toute ma vie, et ça l'est toujours. Et ouais, là, il était là en plus, donc c'était super.
Bon, coup de chapeau également à ton tonton David Lenormand qui lui est bien connu sur le circuit, mais le circuit footballistique, on va dire. Donc voilà. Alors, il faut saluer bien sûr tes partenaires de l'équipe de Bretagne avec lesquels tu as obtenu ce titre de champion de France. Il y avait Julien Hinault et Tristan Favennec, c'est bien ça?
Ouais, c'est ça. Bah, on a pas mal bossé pendant les stages de Bretagne pour essayer vraiment de réussir à le Graal, quoi. Donc,
Alors, et donc, c'était du sprint. Qui était le premier, deuxième, troisième?
Et ben moi, j'étais positionné en troisième position parce que j'avais un rôle plus de finisseur vu que je fais pas mal d'endurance. Après, il y avait deuxième position Julien Hinault. Parce que en première position, c'est obligatoire d'avoir un cadet. Donc on a mis Tristan, mais il va super vite. Donc on a fait la disposition parfaite.
Bon, super. Bravo à tous. Et c'est la Bretagne, une nouvelle fois, qui a rayonné sur les championnats de France. Hein, une belle terre de cyclisme sur piste en Bretagne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Active. Et puis, on se verra forcément à l'Oudéac sur ce magnifique week-end de cyclisme sur piste. À bientôt, Septime.
Et à vous, à bientôt.
Et on espère te revoir comme on aura bientôt Antoine Huby, qu'on avait reçu lorsqu'il était récent champion de France junior de cyclocross. Eh bien, on te souhaite le même destin. Salut Septime.
Merci, salut.
Voilà, on est avec Étienne Dao pour se bercer les oreilles. Alors, j'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, hein. Bernard Hinault n'a pas battu le record de l'heure. C'était Francesco Moser, son concurrent de l'époque, qui s'y était attelé. Par contre, il y a beaucoup de champions français qui ont essayé de battre ce record de l'heure. Et c'était vraiment un mythe. Mais par contre, les noms français les plus connus, c'est bien sûr Félicia Ballanger au niveau des féminines, qui a, comme Marie-Jo Perret, qui a gagné trois fois une médaille d'or. Hein, c'est magnifique. Grégory Boger, Florian Rousseau également, de nombreuses médailles, Arnaud Tournant, etc. Et puis il y en a une que je veux saluer parce que j'avais du Hinault quand même. C'est Marianne Hinault qui vient, la costa armoricaine, qui vient de remporter le championnat de France de la course à l'américaine. Alors le profil des Bretons colle parfaitement avec le vélodrome de l'Oudéac. Et on va l'entendre tout de suite avec Patrice Huby, qui a remporté le titre de champion du monde en 2019. Et là, c'était dans la catégorie, certes, en vétéran. Enfin, en tout cas, vous allez l'entendre M5, entre 49 et 54. Mais c'est toujours une performance en soi. On l'écoute.
Bonjour, Patrice Huby.
Bonjour.
très flatté, très honoré d'avoir aujourd'hui un champion du monde, champion d'Europe, champion de France. On ne compte plus les breloques sur la tête de cheminée de Patrice. Patrice, où est-ce que tu les ranges, tes médailles?
J'ai une petite pièce au-dessus de mon garage, c'est ma salle de sport. Et du coup, toutes les médailles sont bien encadrées là, avec les maillots.
On imagine beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup de souvenirs.
Oui, énormément. Mes meilleurs souvenirs dans le vélo sont sur un vélodrome.
Voilà, sur un vélodrome, bien sûr. Avec une grande joie de pouvoir très prochainement profiter du vélodrome de Bretagne à Loudéac.
Exactement. C'était attendu depuis tellement longtemps pour moi. J'ai commencé la piste, j'avais 14 ans, j'en ai 54. Donc ça fait quelques années effectivement que j'attends un beau vélodrome en Bretagne.
Voilà, alors on revient sur ce dernier titre de champion du monde en 2019. Alors à l'époque, tu ne pouvais pas t'entraîner en Bretagne, tu étais obligé de descendre loin de chez nous, à Bourges.
Exactement. Donc à l'époque, je travaillais à Nevers et donc du coup, j'étais là-bas du lundi au jeudi et donc j'avais l'opportunité d'aller m'entraîner tous les mardis ou tous les mercredis au Vélodrome de Bourges. Et donc du coup, c'est grâce à ça, à la proximité d'un vélodrome couvert où j'ai pu progresser et qui m'ont permis d'aller chercher tous mes titres que j'ai acquis depuis 2015. Quoi.
Avec le vivier de jeunes cyclistes qu'on a en Bretagne, je pense que, enfin, j'imagine en tout cas que tu vois dans les années à venir de très belles performances chez les jeunes et moins jeunes.
Oui, ouais, clairement, parce que c'est un outil exceptionnel. En fait, alors j'ai beaucoup d'attaches avec les gens de Bourges parce que j'y ai passé de nombreuses années à m'entraîner là-bas et j'ai quelques petits chiffres à vous annoncer par exemple. Donc ça fait 10 ans que le Vélodrome de Bourges a été inauguré. Ouais. Et ne serait-ce que dans les 3 dernières années, il y a eu pour les athlètes qui s'entraînent là-bas 5 titres de champion du monde et 33 titres de champion de France.
Incroyable.
Sur les 3 dernières années. Donc il est clair que c'est un outil exceptionnel pour permettre aux jeunes de progresser et d'avoir un bon vivier de vrais champions dans les années à venir.
Voilà, ça c'est une donnée très importante qu'il était bon d'entendre ce aujourd'hui sur Radioactive. Alors, on vient d'entendre Septime Lenormand à l'instant et hasard des choses, tu connais bien la famille Lenormand puisque c'est avec son papa que tu as gagné un de tes titres.
Oui, exactement, avec Yann. Je crois que c'était en 2000, alors, je veux pas dire de bêtises, mais 2015 ou 2016, on a été champion de France de poursuite par équipe en master ensemble.
Génial. Le monde est petit dans le cyclisme. Revenons à toi. Donc tu étais, alors tu es toujours licencié à l'US Verne Cyclisme près de Rennes.
Oui, c'est ça. À l'US Verne Cyclisme depuis tout gamin en fait. Hein. Voilà. Je suis licencié dans ce club-là.
Donc ça veut dire que toi tu alternes la route et la piste.
Oui. Même si mon vrai terrain de jeu, moi, c'est la piste, mais étant fondeur, on a besoin de faire beaucoup de route pour acquérir du fond. Mais donc, du coup, la route est un élément de préparation pour moi pour la piste. Mais clairement, mes objectifs sont toujours sur la piste et je me sers de la route comme préparation.
Ouais. Patrice Subit, vraiment un nom qu'il faut retenir parce que finalement le dernier titre de champion du monde que tu as eu, qui est une consécration pour toi, eh bien tu n'as pas vraiment pu t'en profiter avec cette époque de Covid qu'il y a eu juste derrière.
Exactement, j'étais champion du monde en octobre 2019 et derrière au mois de mars 2020 il y a eu tous les confinements etc, donc j'ai pas pu participer à beaucoup d'épreuves, si ce n'est qu'aucune, en raison des confinements, des Covid et des annulations de toutes les épreuves. La petite compensation que j'ai eue, c'est que les 2 années qui ont suivi, il n'y a pas eu de championnat du monde d'organiser, donc j'ai quand même pu rouler avec mon maillot de champion du monde pendant 3 ans. Alors, comme je dis souvent avec mes copains, c'est que j'ai été champion du monde 3 ans d'affilée, et le plus dur, ça a été de gagner la première année, quoi.
Exactement. On rappelle que lorsque tu étais senior, tu glanais déjà des titres en Bretagne hein, avec les courses au point ou à l'américaine. Voilà, un grand spécialiste avec nous sur Radioactive. Ton rêve, bien sûr, c'est de retrouver ce maillot arc-en-ciel. Et l'année prochaine, il y a de belles perspectives pour toi.
Oui, parce que j'ai gagné en 2019, donc j'étais le plus jeune de ma catégorie, puisqu'on change de catégorie tous les 5 ans. Donc, si on fait le calcul, et ben, 2024, je serai le plus jeune de ma nouvelle catégorie. Et donc, en 2019, je m'étais dit rendez-vous dans 5 ans pour remettre ça. Donc là, tranquillement, ben, je commence à me paramétrer pour me préparer pour octobre 2024. Les championnats du monde seront à Roubaix. Et donc, ça tombe très bien pour moi, puisque ne travaillant plus sur la région de Nevers, mais m'étant rapproché, maintenant que je travaille à Colpeau, dans le Morbihan. Et donc, c'est la bonne opportunité pour moi d'avoir le vélodrome de Déac pour pouvoir continuer à me préparer sereinement et dans de bonnes conditions pour ma prochaine échéance.
Un champ.
Voilà, on doit couper les dernières secondes car il est l'heure de rendre l'antenne. On se retrouve ce soir, salle Glénan, à 20h sur Radioactive 101.9. Yao, un petit mot pour conclure l'émission.
Et une fois encore, on remercie tous les invités de cette 12e journée. On leur envoie tout simplement big up. Et puis en même temps, ce samedi, ce qui vous attend. Donc vraiment, le rink hockey. Et comme on dit là-bas, vive mon sport.